Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Voici le bulletin avec tout de suite les titres présentés par Alexis Rosenzweig. Lutte contre la corruption. Les députés tchèques adoptent l'amendement à la loi sur les marchés publics. Taux de chômage de 6,6% en République tchèque à l'heure actuelle. Et puis les Tchèques pessimistes sur leur proche avenir et celui de leur pays selon un sondage. La Chambre des députés a adopté ce vendredi l'amendement à la loi sur les marchés publics. L'application du nouveau texte doit permettre une plus grande transparence des appels d'offres et dans l'attribution des commandes. Les fournisseurs seront notamment tenus de donner des informations sur les sous-traitants avec lesquels ils collaborent, ainsi que sur leurs principaux actionnaires. L'amendement doit encore être soumis à l'examen du Sénat. Le taux de chômage en République tchèque s'est élevé à 6,6% durant le troisième trimestre de cette année. Il s'agit d'une baisse de 0,5 points par rapport à la même période en 2011. Au total, 346 000 personnes étaient sans emploi. Les chiffres ont été communiqués ce vendredi par l'Office national des statistiques. Il s'agit du taux le plus faible depuis le deuxième trimestre de l'année 2009, au moment de la plus grande crise. Pour l'établissement de ces chiffres du chômage, l'Office tchèque des statistiques se base sur la méthode de calcul employée par l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU. En revanche, selon la méthode différente employée par le ministère tchèque du Travail et des Affaires sociales, le taux de chômage était de 8,2% en juillet et de 8% en septembre. La Banque nationale de la République tchèque, la Banque centrale, a nettement revu à la baisse son estimation de la croissance économique du pays pour l'année prochaine. Selon ses nouvelles prévisions publiées jeudi, la croissance du PIB devrait s'élever à 1,2% en 2012, contre 2% cette année. Dans ses précédentes prévisions, la Banque centrale tchèque avait prévu une croissance de 2,2%. En début de semaine, le ministère des Finances avait lui annoncé que la croissance ne dépasserait pas 1% l'année prochaine. On passe au sport avec un mot de foot. Et le Sparta de Prague qui a été nettement battu 6-0 par l'Olympique Lyonnais jeudi après-midi devant son public, c'est la Ligue des Champions féminine et Guillaume Narguet vous en dira un peu plus dans un instant. Un mot de tennis également avec une grande finale ce week-end, la finale de la Fed Cup, c'est la République tchèque contre la Russie. Le match se joue en Russie et les Tchèques sont enlevés par la joueuse en forme du moment, la numéro 2 mondiale Petra Kvitova, qui vient, vous le savez, de remporter les Masters à Istanbul. Les Tchèques comptent donc sur Petra Kvitova pour remporter une victoire historique. Un mot pour terminer, pour vous dire que le Zoo de Prague prévoit d'envoyer en Mongolie 4 nouveaux chevaux de Przewalski en juin prochain. Le directeur du zoo a indiqué cette semaine qu'il s'agissait de bêtes en provenance de différents pays. Le Zoo de Prague joue un rôle majeur dans la sauvegarde des chevaux de Przewalski. La météo avec, comme ces derniers jours, un temps nuageux ce vendredi, mais le week-end pourrait être plus ensoleillé avec des températures qui pourraient aller jusqu'à 17 degrés pour les maximales. Voilà, c'est tout pour le bulletin. Pour plus d'infos, c'est sur notre site www.radio.cz. Et dans une poignée de secondes, c'est donc Guillaume Narguet que vous retrouvez pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. En cette fin de semaine, plutôt calme en République tchèque, il sera d'abord question de culture avec de la bande dessinée dans le cadre du festival Comics Fest. L'auteur, dessinateur et cinéaste français Pascal Rabaté était en effet à Prague. Nous entendrons pourquoi plus en détail dans quelques instants. Il y aura du sport également et une fois n'est pas coutume du football féminin, les championnes d'Europe en titre sont françaises. Accompagnée de son président Jean-Michel Aulas, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais affrontait le Sparta à Prague jeudi en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et puis la seconde partie de cette émission sera consacrée comme tous les 15 jours à l'économie et aujourd'hui c'est de vodka dont il sera question, une bonne raison de rester à l'écoute jusqu'au bout. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. On commence donc avec de la culture. Dans le cadre du festival de bande dessinée Comics Fest, dont la sixième édition s'achève ce week-end à Prague, L'auteur, dessinateur et cinéaste français Pascal Rabaté expose à l'Institut français de Prague les planches originales de son chef-d'œuvre intitulé Hibiscus. Autre raison de la venue de Pascal Rabaté dans la capitale tchèque, 5 ans après la parution de l'intégrale d'Hibiscus en France, les 4 tomes de la bande dessinée viennent de sortir en tchèque aux éditions Mott. Pour Hibiscus, Pascal Rabaté s'est inspiré du roman éponyme d'Alexis Tolstoï sur le destin de l'escroc Siméon Nesvorov pendant la Révolution russe. Au micro de Magdalena Rosinkova, Pascal Rabaté a expliqué comment il avait découvert ce roman et comment s'était passée son adaptation.
Je suis tombé par hasard sur un livre que je ne connaissais pas d'Alexis Tolstoï, que j'ai confondu avec Le Grand Léon. J'ai lu le roman qui m'a complètement transporté. Il y avait plein de choses qui me... Bon, il y avait une période de l'histoire qui m'intéressait beaucoup, c'était le début du XXe siècle. Pour moi, ça a été il y a eu des choses énormes qui sont passées d'un point de vue social, d'un point de vue la Première Guerre, la Révolution, mais d'un point de vue artistique, il y avait un grand mouvement. On sortait pile de l'impressionnisme pour rentrer dans ce qu'on peut appeler l'art moderne, avec le constructivisme en Russie, l'expressionnisme en Allemagne, avec des artistes formidables. Il y a la musique, il y avait Satie, il y avait Debussy, il y avait Prokofiev, enfin il y avait des tas de choses. C'était le début du cinéma et donc on commençait à avoir déjà des traces des gens qui bougeaient, enfin qui continuent à vivre sur la gélatine. Et cette période m'était vraiment très très forte pour moi d'un point de vue artistique. Quand je suis rentré aux Beaux-Arts, moi, dans les années 80, j'ai découvert justement ce mouvement expressionniste allemand. Et comme je m'étais spécialisé dans la gravure, je faisais, pas naturellement, mais je suis parti vers une expression qui était proche de ce qui se faisait dans ces années-là. Et donc quand je suis tombé sur ce roman, je me suis dit que ça allait être un peu le catalyseur. J'allais pouvoir mettre à la fois parler de cette période artistique, parler de cette période au niveau de l'histoire. Il y a un thème récurrent dans tout mon travail qui est le thème de la survie, et là j'étais en plein dedans, quoi. Donc du coup ça m'a permis un peu de rassembler un petit peu toute ma passion et toutes mes influences, que ça aille de la littérature, je pense à Babel, je pense à Tchekhov ou à Zamiatine en Russie, on peut penser à des gens comme Sandrard en France. Enfin, j'avais l'impression de pouvoir glisser un petit peu tout ce qui m'avait marqué. Il y a Bulgakov, puisque il y a des petites scènes qui viennent non pas du livre mais qui viennent d'ailleurs. Donc il y a des scènes qui ont été inspirées dans le roman, même si je colle beaucoup au texte, mais de Roman et cocaïne, qui avait été un livre qui a été exhumé dans les années 80. Il y a même, je m'en suis rappelé hier soir, parce qu'on parlait de J'étais ici, il y a des cases qui ont été inspirées, la mise en scène m'a été inspirée par le roman de Rabal, J'ai servi le roi d'Angleterre, la personne qui couchait sur ses billets de banque. C'était une image qui était dans le livre de Rabal, alors que dans le roman, il jetait les billets. C'est très, très, on est presque dans le poncif dans ce truc-là, alors que là, il y avait quelque chose d'un peu plus fort. Il y avait Bulgakov, bon, c'était l'armoire et cette chaise sur une colline. C'est dans un texte de témoignage, justement, sur les armées blanches. Donc du coup j'avais tout ça, il y avait le travail qui m'avait fasciné de Murnau sur la lumière, ou le travail de Lang de Wells, ou le travail des ombres portées, enfin tout s'y prêtait, et puis il y avait cette histoire d'un type qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. On était dans un portrait d'une personne pas très morale, mais il y avait de l'animalité, de l'organique, et du coup c'est le roman qui m'a emporté, plus que moi qui ai emporté le roman.
Et comment ça se passe alors quand on adapte un roman en bande dessinée, un roman qui existe déjà en bande dessinée?
L'avantage de ce roman, c'est qu'il n'était pas très connu en France. Il était tombé dans le domaine public. L'auteur était mort en 42-43, donc ça présentait au moins un avantage,
c'est qu'il n'aurait pas
de souci avec l'auteur. Et puis après, il n'y a pas vraiment eu de difficulté, si ce n'est le fait de se mettre tous les jours sur la table de travail, mais le texte était tellement fort, enfin il y avait tellement de choses qui me permettaient d'accoucher de ma partie noire, si on peut dire, que il n'y a pas eu de difficulté, mais c'est, il fallait que juste que je pense du jour pour le lendemain, et puis à penser à court terme, et puis le fait de travailler sur un texte me permettait moi de d'improviser chaque jour. J'avais les rails qui avaient été posés par Alexis Tolstoï, et puis moi j'avançais petit à petit sans me projeter vraiment très loin, en me disant t'as une scène à traiter. Tu l'as fait comme tu la sens, et puis la prochaine arrivera, quoi.
Et précisons encore que le festival de bande dessinée Comics Fest accueille ce vendredi et samedi un autre invité francophone après Pascal Rabaté que nous venons d'entendre. Il s'agit du dessinateur et scénariste suisse Frédéric Peters, connu du public tchèque grâce à l'album intitulé Les Pilules Bleues et la série Lupus. On passe au football. La semaine écoulée a été riche en matchs de gala pour les amateurs de football à Prague. Deux jours après la réception du FC Barcelone par le Viktoria Plzeň en Ligue des Champions masculine, l'équipe féminine du Sparta de Prague accueillait-elle jeudi l'Olympique Lyonnais, dont les filles, comme les partenaires de Lionel Messi, ont remporté la dernière Ligue des Champions. Et comme chez les hommes mardi, où les Catalans ont nettement battu 4-0 le champion de République tchèque, les Lyonnaises, dont les joueuses composent l'essentiel de l'effectif de l'équipe de France, ont également largement disposé du Sparta 6-0 en match aller des huitièmes de finale. Tout cela à la grande satisfaction du président de l'OL, présent dans les tribunes aux côtés de l'ambassadeur de France, Jean-Michel Aulas, s'est confié au micro de Radio Prague à l'issue du match.
Bon, c'était un match plus difficile qu'il n'apparaît au vu du résultat. Donc, bonne satisfaction. En plus, a priori, pas trop de blessés. Comme on joue tous les trois jours en ce moment, c'est important de garder l'intégrité physique.
Avant le match, l'entraîneur du Sparta avait comparé l'équipe féminine de Lyon à Barcelone chez les hommes. N'êtes-vous pas un peu déçu de l'accueil qui vous a été réservé ici à Prague? Le match s'est déroulé sur un terrain d'un petit stade de banlieue, entre des immeubles. C'est pas le plus beau quartier de Prague, alors que le Sparta recevait quand même une des meilleures équipes au monde, l'équipe en tous les cas championne d'Europe en titre.
Oui, c'est vrai que bon, ça surprend quand on arrive ici. Bon, ceci étant, je ne connais pas les conditions, je dirais, de fonctionnement des clubs ici à Prague, mais c'est vrai que y compris dans les autres villes de l'Europe de l'Est, souvent on nous a fait jouer dans des stades de première division, de masculine. Donc ça donne à cette équipe championne d'Europe, qui est vraiment, c'est vrai, une bonne équipe, où on continue d'investir. On avait pour la première fois en Coupe d'Europe notre nouvelle internationale brésilienne, Rosana, qui était là. Donc c'est vrai que ça surprend un peu. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi on a joué à 14h15 ou 14h, parce que on voit que comme il n'y a pas de lumière, il aurait été impossible de jouer sur ce terrain. Donc voilà, donc ça donne un côté campagnard qui ne va pas bien avec la dimension que l'UEFA veut donner au football féminin. Bon, tout le monde insiste en ce moment à l'UEFA, dans les fédérations, pour que le football féminin soit pris en compte, et c'est une bonne chose parce qu'on voit vraiment de très belles choses. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu déçus, puis après bah, il faut jouer et donc s'adapter au terrain, à l'environnement et à une équipe de Prague, qui était une bonne équipe sur le plan de la densité physique, mais qui manquait un peu de technique par rapport au niveau de l'équipe lyonnaise.
Malgré la déception de ne pas avoir joué sinon à l'Etna, le stade du Sparta, au moins dans un stade digne de leur statut de championne d'Europe en titre, les Lyonnaises sont reparties de Prague avec le sentiment du travail bien fait, comme le confirmait la latérale droite Corinne Franco.
Bah, on est content, on a la victoire et la qualification est bien entamée, donc on était venu pour ça et on a fait un bon match, je pense, par rapport à ça.
Qu'avez-vous pensé de cette équipe de Prague?
Bah, elles ont rien lâché. Physiquement, elles étaient présentes, mais nous, on a réussi à se trouver dans les espaces et à faire du jeu et surtout à marquer les buts, donc c'est le plus important.
Vous-même avez été l'auteur d'un très joli but, est-ce que vous pouvez nous le décrire?
C'est sur un corner et je fais une reprise de volée. Bah, on va dire que ça arrive pas souvent, donc faut profiter des buts comme ça.
Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquante internationale suédoise de Lyon, Lotta Schelin, a été l'une des meilleures joueuses du match, confirmant les propos avant le coup d'envoi de l'entraîneur du Sparta, qui avait déclaré que l'équipe féminine de Lyon était l'équivalent de Barcelone ces dernières saisons chez les hommes. Un compliment auquel n'est pas resté insensible Lotta Schelin.
Bah oui, bien sûr, ça fait trop plaisir. Hein. ouais, mais non, mais franchement, je pense qu'on est une bonne équipe, bien sûr. Et ouais, on a été en finale 2 ans de suite. Et ça fait quelque chose. Mais oui, on est content pour ça. Mais en même temps, il faut jouer, il faut le faire. Et c'est comme Barça. Et quand on est des favorites. Ouais, l'adversaire sait bien comment on joue et tout, alors c'est toujours dur, mais ouais, c'est une grande chose et bien sûr on va être content par rapport à ça.
Pour le match retour mercredi soir prochain à Lyon, le Sparta de Prague sera reçu au stade Gerland. Vous pourrez entendre l'intégralité de l'interview avec Jean-Michel Aulas, consacré donc à la politique du club de mise en avant de son équipe féminine dans une prochaine rubrique sportive. Une autre rubrique sera également consacrée au développement du foot féminin en République tchèque, avec notamment l'entraîneur du Sparta et une des meilleures femmes arbitres au monde, Dagmar Damková. Et c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants pour la suite, pour la seconde partie de notre programme. Une suite du programme en français consacré, comme tous les 2 semaines, à la rubrique économie commerce. Aujourd'hui, c'est d'alcool dont il sera question et d'alcool fort. Un mélange de vodka et d'absinthe produit en Moravie. Il s'agit de la vodka Babichka, distribuée en France par la société Vodka World. Alexis Rosenzweig a joint le manager associé de cette société, Anthony Harari, pour en savoir un peu plus.
Économie, commerce.
Anthony Harari, bonjour. Alors, récemment est apparue sur le marché une nouvelle marque de vodka, la vodka Babichka, qui, comme son nom l'indique, est très tchèque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est une vodka d'origine tchèque, tout à fait. Elle est distillée, alors je n'ai pas la prononciation exacte, à Prostějov, en Moravie.
Prostějov,
voilà, exactement, en Moravie. Donc elle est distillée en République tchèque. C'est une vodka haut de gamme. Et pour un produit de qualité, il faut évidemment des ingrédients de qualité. Et donc, elle est faite à base de blé, une vodka de blé, donc issue 100% de Moravie. L'absinthe utilisée pour la vodka Babichka est cueillie à la main, également en République tchèque, et l'eau tirée des puits de la région de Hana.
Alors, c'est donc de l'absinthe, vous en avez parlé, c'est un mélange de vodka et d'absinthe. C'est pas courant. Est-ce que l'absinthe a une réputation assez sulfureuse? Est-ce que c'est dangereux pour la santé?
Alors, en fait, l'absinthe n'est pas dangereuse pour la santé. Ça a même c'est assez de notoriété publique. L'absinthe utilisée évidemment à des doses faibles a même des vertus, d'où un peu l'origine de toute l'histoire qui tourne autour de cette vodka. C'est en fait un groupe de vieilles dames, d'où le nom Babička,
qui veut dire grand-mère en tchèque, précisément.
Voilà, exactement. Alors, évidemment, c'est une légende. Il faut bien le préciser aussi, c'est une légende autour de cette vodka. C'est un groupe de grand-mères, voilà, qu'on considérait au XVIe siècle comme des ensorceleuses sur le territoire tchèque d'époque, évidemment, au XVIe siècle, qui utilisaient dans leurs potions, entre guillemets, l'absinthe et sa molécule active, qui est la thuyone, pour justement les vertus digestives et de l'absinthe, qui a aussi une réputation à améliorer le bien-être. Donc il y a donc la vodka Babichka utilise en fait la thuyone, qui est la molécule active de l'absinthe, et évidemment respecte les lois, qui est de 10 mg par kilo, ce qui est indiqué sur la bouteille.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de cette idée? Pourquoi mélanger vodka et absinthe, et pourquoi la République tchèque? Est-ce que vous avez trouvé un partenaire en République tchèque qui a été, disons, optimal pour vous, pour votre société qui s'appelle Vodka World?
Alors, tout simplement, je vais vous refaire un petit peu l'historique. Donc, on a lancé Vodka World en même temps que Babichka. Donc, pour faire un peu simple, en fait, Vodka World est composé de... Je suis associé avec mon associé et mon ami, qui est aussi mon ami d'enfance. On a tout simplement eu l'idée d'ouvrir cette société Vodka World pour proposer au marché français des vodkas un peu originales. Il faut savoir qu'il y a entre 4000 et 5000 vodkas dans le monde. Et en France, quand on se balade un petit peu dans des bars classiques, on en a que quelques-unes qui sont proposées. Donc on a quand même pas mal de retard par rapport évidemment aux pays de l'Est comme la Russie, l'Ukraine, la Pologne, mais aussi l'Angleterre et les États-Unis où quand on va dans un bar classique, on a 7, 8, parfois même 10 vodkas. Donc on voulait un petit peu, c'est un peu notre pari, essayer de proposer au marché français des vodkas un peu originales, mais surtout de qualité. C'est-à-dire qu'on en a reçu beaucoup des vodkas et on a décidé de se lancer vraiment concrètement au moment où on aurait trouvé une vodka de qualité avec un design sympa et une originalité. Et une fois qu'on avait trouvé Babichka, qu'on a reçu à la maison et qu'on a goûté et on a tout de suite été partant.
Et par qui est produite cette Babichka? C'est un distilleur connu en Moravie?
En fait, c'est un Anglais, Monsieur Alex Clark, qui par hasard se trouvait en Moravie et a décidé d'acheter en fait cette distillerie. Et du coup, cette vodka, donc possédée par Monsieur Alex Clark, qui est anglais, l'a d'abord exportée en Australie depuis 2007, où elle marche vraiment très fort en Australie. Et ensuite, peu à peu, et maintenant elle se distribue beaucoup en Angleterre et à Hong Kong. Et donc pour le marché français, c'est Vodka World qui s'occupe de la distribution en France.
Alors, on vous a reproché, j'ai lu quelques messages de tchèques notamment, d'utiliser ce côté tchèque pour le marketing. On vous a reproché quelques erreurs ou incorrections, notamment de parler de la Tchécoslovaquie du 16e siècle et la Tchécoslovaquie n'existait pas. Comment est-ce que vous avez réagi à ces critiques?
Alors en fait, j'ai été un peu surpris par la virulence des messages. Maintenant, il faut savoir que c'était que 3 ou 4 messages auxquels d'ailleurs j'ai répondu. C'est tout à fait normal. Comme je précise, il s'agit d'une légende. Toute légende, on parle de légende. Si on reprend l'histoire des légendes, il y en a des vraiment complètement farfelues. Et après, c'est à la personne, chacun y croit ou non. Donc c'est une légende. Après, oui, il y a ce terme de Tchécoslovaquie du 16e siècle qui n'est pas de notre fait. Évidemment, voilà, il faut savoir qu'avant le 20e siècle, la Tchécoslovaquie n'existait pas. Moi, j'en suis conscient. Maintenant, il faut aussi, je tiens à souligner que j'ai aussi reçu des messages en privé de gens qui étaient conscientes de cette petite erreur, mais qui se détachaient complètement des personnes qui avaient répondu de manière assez violente.
Est-ce que vous pensez, alors on a eu sur notre antenne déjà deux jeunes Français qui avaient lancé une marque, ou relancé plutôt une marque de bière parisienne, qu'ils produisent également en République tchèque, alors cette fois-ci en Bohème, à Nymburk. Est-ce que vous pensez que la République tchèque a une bonne image et peut, sur le plan marketing justement, apporter un plus à ces produits alcoolisés en l'occurrence?
Alors en fait, nous, je vous avoue qu'on est assez contents que notre premier produit soit issu de République tchèque. Surtout, en fait, on voulait, non pas qu'il n'y a pas d'excellent vodka en Pologne, en Russie ou encore en Ukraine, c'est ce qu'on appelle en fait, cette zone, elle est appelée la ceinture de vodka. Non pas qu'il n'y ait pas de bonne vodka dans cette ceinture de vodka, mais nous du coup on est content que notre esprit d'ouverture en fait nous a amené en dehors de cette fameuse ceinture et c'est tombé sur la République tchèque. Maintenant c'est plutôt bien pour le pays d'avoir un produit valorisant comme la vodka Babichka.
Et c'est une clientèle plutôt aisée qui est visée puisque le prix de la bouteille est assez élevé, je crois autour de 40 euros.
Alors le prix d'une bouteille coûte en fait 38 euros. Donc à titre de comparaison, on est sur une autre vodka haut de gamme qui est par exemple la Grey Goose, qui est très célèbre. Voilà, maintenant en termes de goût, c'est à chacun de se prononcer. Acheter une vodka moyenne ou qui n'a pas vraiment de goût à 20-25 euros, peut-être qu'une fois qu'on a goûté cette Babichka, peut-être qu'il faut faire un petit effort et se procurer une vodka tout à fait haut de gamme, notamment en termes de goût. Les gens qui l'ont goûté sont assez stupéfaits de sa saveur qui reste, notamment. Elle peut se boire pure, ce qui est quand même assez rare pour une vodka. Elle peut se déguster pure, mais aussi sous différents cocktails, notamment des cocktails assez élaborés à base de concombre ou de fruits de la passion.
À consommer avec modération, évidemment. Anthony Harari, je vous remercie et je vous
souhaite
une très bonne journée à Paris. Au revoir.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci aussi de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy.